faz Facebook, vê o app.
John Linden à la présentation. Bonjour à tous. Il est 15h à Washington DC et 19h en temps universel. Bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information sur VO Afrique. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall, qui a voté avec son épouse dans le centre-ouest, a mis en garde contre les revendications de victoires prématurées. Il n'appartient ni à un candidat ni à un camp de proclamer une victoire ou des résultats, a-t-il dit. Quelques 7,3 millions d'électeurs sont appelés à choisir entre le candidat du pouvoir Amadou Ba et 16 concurrents, parmi lesquels Bassirou Diomaye Faye et la seule femme de la liste, Anta Babacar Nguem. Amadou Ba, 62 ans, dauphin et premier ministre il y a encore quelques semaines du président Macky Sall, et Bassirou Diomaye Faye, 43 ans, le candidat du changement de système et d'un panafricanisme de gauche, sont donnés favoris d'une compétition qui tranchera entre continuité et changement. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, 68 ans, est cité comme outsider. En visite en Égypte, le secrétaire général de l'ONU a appelé dimanche Israël à lever les derniers obstacles à l'entrée de l'aide à Gaza et à cesser le feu pour mettre fin au cauchemar de la population après 5 mois et demi de guerre entre Israël et le Hamas. Les bombardements israéliens et les combats font toujours rage pendant ce temps dans le territoire palestinien assiégé et au bord de la famine, alors que les négociations sur une trêve ne montrent aucun signe de progrès, malgré les pressions redoublées des États-Unis. Les bombardements ont fait 84 morts en 24 heures, selon le ministère de la Santé du Hamas, notamment dans la ville de Gaza dans le nord et celle de Khan Younes et Rafah dans le sud. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est en visite ce dimanche ici aux États-Unis pour des discussions sur fond de tensions croissantes entre les deux alliés au sujet de la guerre à Gaza. M. Gallant doit rencontrer son homologue Lloyd Austin, le secrétaire d'État Anthony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan, selon un communiqué du gouvernement israélien. Le gouvernement américain a affirmé dimanche qu'il n'y avait aucune implication ukrainienne dans le massacre au Crocus City Hall, donc, pardonnez-moi, à Moscou, après que le président russe Vladimir Poutine eut évoqué un lien avec l'Ukraine. Il n'y a aucune preuve selon laquelle l'Ukraine est impliquée dans le massacre qui a fait au moins 137 morts et le groupe djihadiste État islamique est responsable, a retorqué la vice-présidente américaine Kamala Harris lors d'un entretien télévisé dimanche. La Russie, qui observe ce dimanche une journée de deuil national après le massacre dans une salle de concert près de Moscou, qui a fait au moins 137 morts, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière sur le sol européen revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Les autorités n'ont cependant pas évoqué la responsabilité de ce groupe, citant en revanche une piste ukrainienne. Et à propos de cette attaque en Russie, ajoutons que 4 assaillants présumés ont été arrêtés samedi dans la région de Bryansk, frontalière du Bélarus et de l'Ukraine. Ils pourraient être présentés à un juge dans les heures à venir, dénonçant un acte terroriste barbare. Vladimir Poutine dans une allocution télévisée samedi, près de 24 heures après les faits, affirmé que les suspects avaient été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine. Cette attaque est la plus meurtrière en Russie depuis une vingtaine d'années et la plus sanglante revendiquée par l'État islamique en Europe. Et puis, le président américain Joe Biden a signé samedi le texte permettant de financer l'État fédéral jusqu'à septembre, quelques heures après son adoption par le Congrès, mettant ainsi fin à des mois de tensions autour du budget 2024. Cette loi bipartite que je viens de signer permet au gouvernement de continuer à gouverner, investir dans le peuple américain et renforce notre économie et sécurité nationale, a salué le démocrate, évitant ainsi une paralysie partielle des services publics tant redoutée, appelée shutdown aux États-Unis. Fin de ce bulletin d'information présenté par John Linden. Je reviens dans moins de 55 minutes pour d'autres infos sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce dialogue des religions. Ce soir, nous parlons du ramadan et des traditions culinaires. Eric Manirakiza est avec vous, Lionel Lunanera Gahima assure la réalisation et la mise en onde. Dans cette édition, nous explorons la connexion profonde entre la foi et la culture culinaire à travers le partage des plats traditionnels. Pendant ce mois saint du ramadan, les musulmans du monde entier se rassemblent pour rompre leur jeûne quotidien lors de l'iftar. Un moment qui va bien au-delà de la simple satisfaction de la faim. C'est une célébration de la diversité, de l'unité et de la générosité où les traditions culinaires de différentes régions s'entremêlent pour créer une expérience inoubliable. Bienvenue dans ce voyage gastronomique et spirituel unique du Ramadan. Je suis en ligne avec Frida Darmani qui se trouve à Tunis. Bonsoir Frida.
Bonsoir.
Bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci.
Je rappelle que vous êtes à Tunis. Nous avons également Mahmoud Niang qui est à Atlanta. Mahmoud, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous tous d'être avec nous dans une ambiance chaleureuse à Potomac dans l'état du Maryland aux États-Unis. Des fidèles musulmans célèbrent l'iftar partageant des plats sénégalais et leur foi, l'unité dans la diversité mise en avant alors qu'ils apprennent et partagent les cultures, illustrant ainsi l'esprit du ramadan, accueillant, chaleureux et ouvert. Dans ce reportage, Sims Loumami nous plonge dans un voyage savoureux à travers les délices partagés lors des iftars et leur signification spirituelle. Le récit est relaté par Alexandrine Rolognan.
C'est dans une ambiance chaleureuse et remplie de générosité que des membres de la communauté musulmane de Potomac, dans l'État américain du Maryland, se retrouvent pour marquer ensemble l'iftar. Ce repas de rupture du jeûne symbolise à la fois leur foi et la richesse de leur diversité culturelle. Mamadou Niang est un fidèle musulman.
On est là, on se prépare pour couper le jeûne, donc on va manger des dattes et prendre de l'eau. Après, on va partir dedans pour prier. Après ça, on va prendre le dîner. Après le dîner, on va prier encore et après ça, on va partir à la maison.
L'iftar transcende les frontières et met en avant la diversité des cultures. Les participants partagent des plats typiques des pays représentés au sein de leur communauté. Cette semaine, ils ont eu l'occasion de découvrir et déguster des plats sénégalais. Adja Koïté est propriétaire de restaurant.
Puisqu'il s'agit d'une communauté diversifiée, nous essayons de présenter les différentes cultures à tout le monde. Comme aujourd'hui, c'est la journée sénégalaise. Ainsi, nous avons la cuisine sénégalaise, notamment le yassa et les beignets qui sont considérés comme un dessert. Vous pouvez aussi les utiliser comme du pain.
Lors de cette occasion spéciale, l'accent est mis sur le partage qui illustre l'unité au sein de cette communauté.
Nous apprenons les cultures respectives des uns et des autres pendant le mois du Ramadan. Une partie de cela est religieuse. Vous savez, nous nous réunissons pour prier, nous nous réunissons pour rompre notre jeûne. Mais il y a aussi une composante culturelle à cela. Les gens célèbrent ensemble et partagent un repas ensemble. Ainsi, nous voulons qu'ils fassent l'expérience d'une communauté très ouverte, très accueillante, très chaleureuse. Et c'est ça le Ramadan.
Yassine Belkoja, un des membres de la communauté, en profite pour évoquer la contribution du centre musulman de Potomac à la lutte contre le réchauffement climatique en protégeant l'environnement.
Nous avons décidé il y a quelques années déjà de n'utiliser uniquement des assiettes, des fourchettes, des couteaux, des verres qui sont compostables. C'est-à-dire qu'on essaie de minimiser au maximum notre impact sur l'environnement. Tout ce qui reste des repas sont réutilisés et transformés en terre qui peut après retourner pour protéger l'environnement.
Des membres de la communauté disent également prier pour les nombreuses personnes prises au piège de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Khaled Kabara est un fidèle musulman.
C'est un ramadan différent car nous pensons à tous nos frères et sœurs palestiniens et plus spécifiquement à ceux et à celles de Gaza. Et nous espérons que ce ramadan leur apportera un soulagement et mettra fin à la misère qu'ils endurent, Inch'Allah. Mais à part cela, c'est un mois formidable et de grandes bénédictions.
Sur fond de rire et de conversation, parents, enfants et amis dégustent le repas traditionnel sénégalais. Il s'agit pour eux d'une belle expérience permettant à toutes ces personnes de cultures différentes de se réunir pour célébrer l'iftar et démontrant que l'unité dans la diversité est au cœur du ramadan.
Merci à Sims Loumami et à Alexandrine Rolognon pour ce reportage qui plante le décor de cette niche tradition culinaire qui unit les cœurs et les esprits durant ce mois saint. Frida, que pensez-vous de cette initiative illustrée dans le reportage et comment favorisez-vous en Tunisie l'inclusion et l'accueil au sein de la communauté pendant le ramadan?
Alors, tous vos intervenants m'ont beaucoup touché parce que chacun parlait de choses qui me sont qui font écho chez nous. Et c'est comme si on partageait le même Ramadan. Ça veut bien dire que l'objectif de Ramadan de créer une communauté est transfrontalier, est universel. Et c'est le message de paix de Ramadan, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un message de paix et de recueillement durant Ramadan. Nous ici, nous sommes effectivement aussi tourné vers cette période, mais la période de Ramadan chez nous commence déjà avant Ramadan, le mois qui précède. On appelle ça des Hawesh, c'est une période spéciale où on est un peu comme si on faisait une purification. Donc on est beaucoup plus soucieux des autres, beaucoup plus attentif, et on est en même temps dans les préceptes de l'islam, entre autres en faisant de l'aumône et en préparant des paniers pour aider les plus démunis durant Ramadan. Donc il y a toute une chaîne de solidarité qui se met en place. Il y a même à Tunis un restaurant qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps, à part les soupes populaires, bien sûr, qui existent, qui s'appelle Amour, où les gens vont dîner, payent, et en même temps qu'ils payent, il y a un repas qui est donné à un pauvre. Donc voilà, c'est toute une mise en place qui se met, qui est adaptée à la vie, au mode de vie urbain, puisqu'on n'a pas le choix, on est dans ce contexte-là. Mais du coup, Ramadan devient très spécifique, un moment vraiment à part, où... Non seulement il y a effectivement les échanges avec la famille, une espèce de rapprochement, puisqu'aujourd'hui, vu l'architecture et vu justement l'urbanisme, on ne vit plus dans la même maison ni dans le même quartier, donc les familles en profitent pour se réunir. Et c'est aussi un moment où justement on est ouvert aux autres. Et il y a beaucoup de gens qui invitent des inconnus pendant tout un mois à partager avec eux l'iftar.
Et pouvez-vous nous expliquer brièvement d'une expérience significative que vous avez eue en partageant un iftar avec des personnes de cultures différentes, Frida, rapidement?
Ça a été l'an dernier, justement, avec des ressortissants sénégalais qui étaient là à Tunis, dans un quartier d'une banlieue de Tunis qui est Parladre. Et on avait dîné ensemble. Moi, j'avais ramené les salades et les entrées. Et on avait... fait les derniers plats ensemble, enfin les réchauffer les dernières choses ensemble. Eux avaient fait du poulet yassa et on a tous prié en même temps. Et c'est vrai que ça, c'est une habitude que j'ai depuis que j'ai été au Sénégal, où je me suis rendu compte qu'on parlait la même langue à travers notre religion. Donc yassa, c'est comment dire, c'est mieux que tous les visas du monde, tout simplement.
C'est fusionnel.
Voilà, tout à fait.
Merci. Mahmoud, pouvez-vous nous expliquer ce que représente l'iftar pour vous en tant que membre de la communauté musulmane?
Oui, tout à fait. Comme mon collègue l'a très bien expliqué, c'est vraiment un moment de partage où on se réunit pour la rupture du jeûne et on rencontre beaucoup, beaucoup de personnes d'autres cultures, d'autres origines, tous réunis autour d'un repas commun qui nous permet de rompre notre jeûne, puis par la suite offrir les différentes prières qui s'en suivent. Donc, comme l'a dit le collègue, c'est vraiment un moment de partage, de convivialité, où différentes personnes de différentes cultures, de différentes origines se réunissent tous autour d'un délicieux plat, et ça permet de nouer des nouvelles connexions, de découvrir de nouvelles personnes, d'avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Et c'est toujours un moment spécial qui s'étend bien au-delà du Ramadan et qui commence aussi bien avant le mois du Ramadan, comme expliqué précédemment par le collègue.
Oui, par Frida. Mahmoud, vous êtes impliqué dans ces célébrations organisées. Comment vous choisissez les thèmes culturels pour chaque journée spéciale, comme celle dédiée à la cuisine sénégalaise?
En fait, c'est en concertation avec les différentes mosquées ou bien lieux de culte que nous fréquentons. Donc très souvent, ils mettent en place une journée ou une soirée où ils mettent à l'honneur une certaine culture, et puis ils voient dans la communauté s'il y a des représentants des membres de cette communauté. En l'occurrence ici, c'était la communauté sénégalaise. Nous avions une amie qui tient un restaurant dans le Maryland, à Sandy Spring. Donc elle s'est portée volontaire, et puis c'est comme ça qu'elle a pu faire découvrir la cuisine sénégalaise aux autres membres de la communauté.
Et la prochaine fois, vous découvrez quelle cuisine?
Je ne suis pas encore au courant, mais j'ai hâte de découvrir ça en même temps que vous.
J'ai entendu qu'il y aura plusieurs rotations, n'est-ce pas?
C'est ça, ouais, ça marche comme ça.
Oui, Frida, quel plat traditionnel vous préparez ou dégustez lors de l'iftar en Tunisie? Voudriez-vous nous décrire un plat, un plat typique de votre culture?
Alors, il faut savoir que la gastronomie tunisienne est à la confluence d'une influence andalouse et d'une influence turque. On est en plein milieu de la Méditerranée, c'est un peu notre histoire qu'on retrouve à travers ce que nous mangeons. Donc, nous avons une espèce de feuille qu'on appelle la feuille de brique, qui est une feuille très très fine, comme les feuilles de filo, qui sont confarcies et confries, qui sont servies en entrée, qu'on appelle ça les briques. Et comme aussi, avec cette même feuille, on fait des espèces de gratins avec du fromage, c'est une chose très très onctueuse, c'est presque une nourriture réconfortante, ça sent bon et c'est en même temps, ça fait du bien. On a l'impression de retomber en enfance avec ce genre de plats, et c'est nos plats traditionnels qui nous accompagnent, et pas forcément sur les tables bourgeoises, je veux dire, ça existe un peu partout. C'est en même temps aussi toujours chez nous une nourriture qui est à l'origine une nourriture du pauvre, c'est-à-dire qu'il y a les ingrédients principaux, les féculents, etc., mais on a une autre façon d'accommoder, bien entendu, sans compter notre international condiment qui est l'harissa. Et nous avons aussi, bien sûr, des moments clés où nous allons faire le fameux couscous, qui est quand même le plat national. Alors, ça sera pour la 15e nuit de Ramadan, ce qu'on appelle la nuit du milieu. C'est pour c'est presque un geste païen ou profane, parce que c'est pour commémorer, souhaiter la bienvenue à la pleine lune, tout simplement, et pour qu'elle nous porte bonheur et qu'elle apporte la paix avec elle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de message comme ça subliminal entre cette nourriture et la pleine lune. Et nous avons aussi la nuit du destin pour la 27e nuit de Ramadan. Alors ce n'est pas un dîner spécial, mais c'est très souvent des réunions de famille, et même une autre occasion, c'est une nuit magique quelque part. Et on a dans les traditions familiales que tous ceux qui comptent se fiancer, etc., se fiancent ce soir-là. Et ça leur porte bonheur, et c'est, comment dire, ils scellent en même temps un côté un peu, ce n'est pas un côté religieux, mais un côté de protection qui est donné à leur union. Voilà. Donc, mais ceci dit, nous avons aussi une très très grande spécialité, mais qui tourne surtout Ramadan, c'est tous les desserts. Alors on a une profusion de desserts, un peu comme ce qui se fait dans la chrétienté à Noël. Moi je pense que parfois la nuit du destin peut être comparée à la nuit de la nativité. Nous avons des desserts, alors en veux-tu en voilà, à base de fruits secs, à base de crème, à base d'amandes. Et tout ça, c'est un peu comme si on se retrouvait dans les souks en Turquie, pour ceux qui connaissent, ou chose. Parce qu'ici, on est un peu plus discret. Mais c'est vrai que ceux qui connaissent la Tunisie savent combien il y a de pâtisseries, combien on est. On mange toute la soirée pratiquement. Sans compter qu'on a une autre spécialité, pour finir, qui est toujours le couscous, mais c'est un couscous sucré, qui est très très rare, qui est pratiquement inexistant en dehors de la Tunisie, qu'on appelle le massouf, qui est à base de qui est un couscous fait à la vapeur sucrée avec des raisins secs, et chacun l'agrémente avec un fruit de saison, ça peut être des grenades, ça peut être des coings, ça peut être des pommes, du raisin, enfin chacun il met un peu ce qu'il veut, et c'est délicieux. Et ça on le mange pour le dernier repas avant le lever du soleil.
Brièvement, en quoi pensez-vous que la diversité culturelle enrichit l'expérience de l'Iftar et renforce l'unité au sein de la communauté ? Frida, rapidement.
Parce qu'on se parle autour de ces repas, on prend le temps. Très souvent, dans ces familles, dans les groupes d'amis, ou dans même les groupes sociaux, on n'a plus le temps de se parler. Avec en plus toute la dispersion des réseaux sociaux et toute la rapidité de la vie actuelle, on prend le temps de se poser. C'est un repas qui dure vraiment au moins une heure de temps, sans compter qu'on passe après la soirée ensemble. Donc ce qui fait que ça prolonge, et sans compter qu'après ce début de soirée, pour très souvent pour les hommes et pour certaines femmes aussi, ils vont faire les prières des Tarawih, c'est-à-dire ce tout un cycle de prières où on reprend toutes les lectures du Coran sur pratiquement jusqu'à la nuit du destin finalement. Et donc ça met une espèce de collectif qui se crée, un état d'esprit, une espèce de communion. C'est un moment qui est d'une extrême douceur en même temps. On n'a plus besoin d'agressivité, il n'y a plus de violence. D'ailleurs, cette année, on est tous choqués. Je rejoins le collègue qui disait tout à l'heure dans le reportage que toutes nos pensées vont pour les habitants de la bande de Gaza. Effectivement, parce que c'est monstrueux ce qu'ils vivent. On ne peut pas vivre ça durant Ramadan. Donc voilà, c'est pour dire jusqu'où on peut très bien parler de ça, comme on est tous en même temps apaisés. Voilà, c'est ça le propre de Ramadan, on arrive tous à être apaisés, à dépasser un peu nos contraintes, nos différences, nos querelles, pour être de nouveau dans un dialogue les uns avec les autres. C'est très important. Et ce n'est pas par hasard que les familles se retrouvent à ce moment-là, puisque dans ce cadre d'apaisement, effectivement, il n'y a plus les distinctions familiales qui très souvent...
On va y revenir.
Quelque part, sociologiquement, ça a un sens très fort.
Justement, on va y revenir tout à l'heure. Mahmoud, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans la célébration de l'Iftar au sein de cette communauté?
Comme l'a dit le collègue, c'est un moment qui nous permet de nous réunir. Ça doit être un peu plus différent quand on est en dehors de l'Afrique. Je parle ici en l'occurrence aux États-Unis, comme tout le monde est très très occupé avec le travail et les différentes activités qu'on peut avoir. Les gens n'ont pas forcément le temps de prendre le temps de se retrouver et de partager de moments, de simples moments comme celui-ci. Donc la période du Ramadan, c'est une période qui est très très attendue au sein de la communauté et où les gens ils prennent vraiment le temps de se retrouver ensemble. C'est vraiment cet esprit de se retrouver ensemble et de partager.
Et comment gérez-vous les différences culturelles et religieuses au sein de la communauté pendant le Ramadan, justement, Mahmoud?
Je dirais pas, c'est un moyen en fait de rapprocher les gens ensemble. On sait que chaque communauté a ses différences, ses cultures. Donc des moments comme celui-ci permettent vraiment aux gens de se retrouver ensemble. Cet élan de solidarité, de fraternité qui fait que on cherche tous ces moments-là, surtout dans ce monde qui est un peu malheureusement de plus en plus divisé. Donc c'est vraiment un moment où les gens prennent plaisir à se retrouver ensemble et partager leurs différentes cultures.
Et comment vous, individuellement ou avec votre famille, vous avez été accueilli au sein de cette célébration, pendant la célébration?
Je crois que la nourriture est un excellent vecteur de rapprochement entre les personnes. Donc, par curiosité, les gens veulent découvrir d'autres plats, d'autres cultures. Et je pense que la nourriture est un excellent vecteur. qui permet de crever l'action, on va dire un peu. Et c'est plus facile d'aller vers les gens en dégustant un plat. Pour ma part, pour la rupture du Ramadan que je fais à la mosquée, ça, chaque fidèle ramène quelque chose de sa culture. Et c'est ainsi que tout le monde se retrouve et un peu de chaque culture devient un beaucoup et c'est comme ça qu'on se retrouve.
Frida, vous avez parlé de cet aspect concernant l'apaisement tout à l'heure. En quoi pensez-vous que ces rassemblements contribuent à promouvoir la compréhension interculturelle et la tolérance?
C'est une ouverture sur l'autre. Quand on découvre que l'autre n'est pas si différent de nous, c'est forcément que ça devient de la tolérance. D'abord, on est surpris nous-mêmes de nos a priori, bien entendu. Si on est honnête avec soi-même, bien entendu. Et en même temps, on apprend ce que l'autre fait. C'est comme quand on part en voyage. On ne part pas en voyage pour aller manger ce qu'on mange chez nous. C'est comme les enfants. La première chose que font les enfants, c'est qu'ils prennent tout et ils portent en bouche, ils goûtent. Et nous, c'est ce qu'il fait pour aller vers l'autre. Il est obligé, enfin, il se sent. C'est peut-être un réflexe, je ne sais pas, certains peuvent peut-être y répondre, mais ça permet de mieux connaître l'autre, de savoir aussi quelles sont ses habitudes, et c'est pour ça que là, aujourd'hui, en Tunisie, justement, au moment de l'iftar, il y a encore des endroits, des restaurants qui proposent des iftars différents avec des recettes parfois asiatiques. Enfin, certaines communautés font présentent durant Ramadan ce qu'elles font. Alors que d'habitude, ce sont des restaurants, je veux dire, normaux, mais ils se donnent la peine. Ils pourraient fermer pendant un mois. Hein. Non, ils se donnent la peine d'ouvrir pour accueillir les jeuneurs. Voilà, ça crée du lien, tout simplement.
Il nous reste 2 minutes. Frida, quel est le rôle finalement de la religion et de la culture dans la façon de célébrer le Ramadan et l'Iftar?
Le rôle de la religion, c'est l'élévation. On est dans l'élévation spirituelle. Ramadan est le moment où on est le plus en contact avec la spiritualité, avec la nature du divin. Quand je vous parlais de la nuit du destin, qui est aussi la nuit du décret, il y a deux façons de traduire le terme. Celui que le padre, ça peut être aussi considéré comme décret, parce que de toute façon, on le voit chez les chiites, c'est une révélation, c'est-à-dire qu'il y a eu le courant, le contenu du Coran aurait infusé, il aurait eu, il serait venu sur terre durant la nuit du destin. Pour les sunnites, c'est autre chose, il a été révélé au prophète Mohammed. Donc voilà, c'est pour dire qu'on a ce côté où on est obligé de se poser des questions, pas forcément pour s'améliorer, mais de pousser tout en avant la réflexion, etc., d'être dans une sorte de sagesse. Et qui nous permet beaucoup de recul et beaucoup de sérénité dans un monde qui devient très très violent, justement. Et du coup, je peux comprendre sans compter qu'il y a aussi un dialogue interreligieux à travers nos pratiques. Parce que tout simplement, le Ramadan a été, d'après la légende, a été créé ou voulu plutôt par le prophète, au moment où il avait été rejoindre les tribus juives à Yézab et qu'il s'était rendu compte qu'il jeûnait pour Kippour. Et c'est là où il a apprécié lui ce que signifie le jeûne, mais il a choisi de le faire pendant Ramadan plutôt que de le faire durant la même période que les juifs, tout simplement. Comme on parlait tout à l'heure de la nativité, quand on voit les desserts tunisiens, on se dit c'est troublant, ça rappelle les desserts de Noël qu'il y a dans le sud de la rive nord de la Méditerranée. Donc voilà, on a tous ces échanges qui sont à travers la gastronomie, qui n'est plus de la cuisine, c'est à travers un échange de traditions en fait. Elles sont culinaires, elles sont vestimentaires, parce qu'aussi pour Ramadan, on a les hommes par exemple portent un petit bonnet de laine rouge qui est la tradition tunisienne, qui ne le portent pas souvent le reste de l'année. de petits gestes qui montrent que, en même temps, c'est aussi un rappel de notre identité. Et on en est tous tellement fiers, en fait, parce que cette identité qui nous fait, il n'y a aucune raison de la gâcher, mais on en est tous tellement fiers qu'elle peut être justement nous aider à échanger avec l'autre.
Merci beaucoup, Frida Darmani, pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Merci également à Mahmoud Niang, qui se trouve à Atlanta. Le Ramadan et les traditions culinaires, c'était notre sujet de ce soir. Eric Manila Kiza était avec vous à la présentation. Lionel Lunanila Gahima à la production et à la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.